troisième temps de notre semaine consacrée au renouvellement actuel de l'histoire politique. Ce matin, nous allons nous demander comment, depuis la Révolution française, le prétendant à l'élection tente de faire passer son idée ou ses opinions. Après avoir évoqué lundi la levée des barrières entre histoire politique et autres champs de l'histoire, puis hier nous être intéressés au statut d'opposant et avant-demain de nous demander comment on fait carrière en politique, nous nous demandons donc ce matin avec Séverine Yatard qui a préparé cette émission avec nous comment les élus ou les prétendants à l'élection ont transmis leurs idées politiques au 18e, au 19e et au 20e siècle avec nos trois invités, Paula Cossard, elle est maître de conférence en sociologie à Lille 3, membre de l'Institut universitaire de France, et auteur du Meeting politique, c'est donc sa thèse publiée aux presses universitaires de Rennes et très récemment avec Julien Talpin de Lutte urbaine, participation et démocratie d'interpellation à l'Almagar aux éditions du Croquant. Laurent Cuvelier est également avec nous, il est doctorant au centre d'histoire de Sciences Po et à terre à l'université de Lille 3. Il prépare une thèse sur les représentants en mission dans les Pyrénées orientales. Et puis Alexandre Borel est avec nous. Il est docteur en histoire et associé au laboratoire communication politique de l'IRISO Dauphine. Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Parlement. Certains des amis de la Fabrique de l'Histoire sur le groupe Facebook ont remarqué la sagacité de notre réalisatrice Séverine Cassard dans ses choix en particulier de musique. Et donc aujourd'hui, elle a retrouvé cette chanson de la campagne de Jacques Chirac en 1981. Bonjour Séverine Yatard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ainsi que nos trois invités. Donc Alexandre Borel, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Laurent Cuvelier.
Bonjour.
Et bonjour à Paula Cossard qui est avec nous au téléphone. Bonjour Paula Cossard.
Bonjour.
Alexandre Borel, cette chanson, vous la connaissez, ça fait partie des nanars qu'on écoute régulièrement quand on s'intéresse aux façons dont on a fait parler de soi en politique, à la télévision. Alors, soit les campagnes politiques donc organisées par les partis eux-mêmes et les candidats eux-mêmes, soit les reportages qui sont faits sur eux pendant ces campagnes électorales. C'est votre sujet de travail, pourrait-on dire, Alexandre Borel. Et cette chanson fait partie de ces chansons nombreuses, il y en a d'autres de Jospin, de Madeleine, qui sont souvent mises dans des sortes de hit-parades, des pires chansons politiques de l'histoire.
C'est un exercice assez délicat que d'écrire une chanson pour soutenir un candidat et j'ai pas de souvenir de chansons réussies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est pour la campagne de Chirac en 81, c'est un moment où les meetings évoluent un peu et commencent à être adaptés un peu à la télévision. Et dans les éléments d'adaptation, c'est Christian Delporte qui a mis ça en évidence, il y a notamment un certain nombre de chanteurs, de personnalités qui viennent chanter sur scène et qui sont au premier rang du meeting pour soutenir le candidat qui est désormais seul en scène.
Mais surtout ce que ça dit, je trouve, ces chansons ou ces spots, c'est quand même, on est dans le programme politique, chanté, proclamé, et là, j'en viens avec vous, Laurent Cuvelier, parce que si on remonte... le temps, évidemment, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision, mais par contre, on proclame, on crie, voire on chante, enfin, on annonce par peut-être des coups de trompe ou je ne sais quel autre instrument, voilà, des décisions d'État, décrets, voilà, enfin, on va, voilà, on va parler avec vous, puisque voilà, parce
que je travaille sur ça. Tout à fait, c'est notamment Robert Darnton qui a travaillé sur ces chansons du XVIIIe siècle qui ont une portée politique et qui sont d'ailleurs parfois, on a retrouvé des chansonniers de l'époque, qui sont parfois utilisés par les hommes politiques, notamment pendant la Révolution, pour faire connaître leur nom et pour faire connaître leurs opinions.
Oui, elles sont des chansons un peu particulières parce que elles se chantent sur un timbre, c'est-à-dire sur une ritournelle qui est connue de tous. Et généralement, soit c'est la carmagnole, soit c'est d'autres chants de ce type-là, des chants populaires, pourrait-on dire. Et on change les paroles et donc tout le monde connaît déjà l'air. Et à partir de ce moment-là, on arrive d'une certaine façon à se faire connaître si ces paroles sont pertinentes, quelquefois méchantes, détruisant l'adversaire, mais faisant la promotion de sa propre personne, par exemple, en Cuvelier.
En effet, oui. Alors, je ne risquerai pas à les chanter là maintenant, mais ce sont des airs qui sont connus, qui sont ancrés dans la culture populaire, notamment dans la culture urbaine de l'époque. Et les paroles sont parfois modulées. On a tout un phénomène, de transmission de la culture orale et de la culture politique par le biais de ces chansons au XVIIIe siècle.
Oui, alors, vous êtes spécialiste de la Révolution française, et ce qui nous intéresse en ouverture de cette émission, c'est de s'apercevoir qu'il y a, il n'y a pas encore effectivement la télévision, il n'y a pas encore la radio, d'autres moyens extrêmement du XXe siècle, pourrait-on dire, de promouvoir sa candidature ou ses idées, mais il y a déjà concurrence entre deux médias, concurrence ou complémentarité entre deux médias possibles, c'est-à-dire l'oral, vous venez d'en parler, mais d'autres façons de proclamer ses idées, et puis l'écrit aussi. Et vous travaillez sur cela dans votre thèse donc, qui est consacrée à la question des représentants en mission pendant la période de 1793-1795 dans les Pyrénées-Orientales et dans tout le secteur du sud-ouest, pourrait-on dire, ou du sud de la France.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette complémentarité entre l'oral et l'écrit, c'est que je me suis notamment intéressé pour ces représentants en mission à la manière dont ils acquéraient et dont ils utilisaient ces différents types de médias. Alors, en ce qui concerne l'oral,
Il faut préciser que les représentants en mission sont généralement des parlementaires,
des députés
qu'on envoie dans les régions pour pouvoir promouvoir la politique du gouvernement, enfin pour pouvoir d'une certaine façon faire savoir quelles sont les décisions qui sont prises
oui,
à Paris.
Tout à fait, petit point de précision, ils sont envoyés par la Convention pour veiller au maintien de l'ordre et à l'application des lois. Et on en a qui sont dans les départements, d'autres qui sont dans les armées. Ces représentants en mission, ils maîtrisent l'oralité souvent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, du fait de leur métier. Ce sont des personnes qui sont souvent habituées à utiliser la parole. On pense les métiers, ce qu'on appelle les métiers de la parole, c'est-à-dire d'être avocat, également d'être homme d'église. On pense aux sermons des hommes d'église. Ce sont également des gens qui ont été formés, qui ont pratiqué et eu des cours de rhétorique. Et enfin, ce sont des gens, pendant la Révolution française, qui pratiquent toute une série d'activités, on va dire des loisirs, qui les rend coutumiers de la parole. On pense à certains députés qui étaient hommes de théâtre, qui étaient comédiens.
Poètes aussi, qui déclamaient leurs propres poèmes.
Également. Et donc, toute une série de compétences pour maîtriser la parole. Ça, c'est ce qui concerne l'oralité. En ce qui concerne l'écrit, on voit au fur et à mesure de la Révolution des députés et des représentants en mission qui publient des tribunes dans les journaux et utilisent l'affiche ou le placard pour véhiculer et diffuser leurs opinions.
Mais qu'est-ce qui fait rupture, Laurent Cuvelier, justement, avec cette Révolution française? Parce que tout ça est progressif aussi. Enfin, j'imagine que c'est pas... qu'est-ce que va initier de plus, par exemple, la Révolution française par rapport à cette vocalisation, justement, des devoirs et des décisions d'État?
Alors, je dirais, ce qui fait rupture, si j'essaie de le synthétiser... avec des formules. On a avant, pendant l'Ancien Régime, notamment la logique, j'ai parlé des placards, des affiches, on a une logique de propagande et d'information. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire croire et de faire savoir ce que les hommes politiques, ce que l'État a décidé. Ce qui change avec la Révolution, avec l'apparition du suffrage, c'est également l'importance pour ces représentants de faire voir leur action, de montrer... On pourrait utiliser le terme de communication politique, on réutilisera peut-être cette expression avec beaucoup de guillemets pour l'époque, mais il s'agit donc non seulement de faire savoir et de faire croire, mais également de faire voir.
Et vous évoquez leur capacité à ces hommes politiques qui partent en mission dans toutes les provinces de France, donc et dans tous les départements pour pouvoir faire connaître leur action, leur capacité à parler, à oraliser. Notre confrère et ami Jean Lebrun organise dans la Marche de l'Histoire sur France Inter très régulièrement des reconstitutions au Vieux Colombier, des reconstitutions de débats publique, parlementaire, à partir des traces qu'on en a gardées dans les archives. Et il a organisé, c'était en juin dernier, juste avant l'été, une reconstitution du moment des États généraux. On écoute un extrait de cette reconstitution.
Malouet, député du tiers de la Sénéchaussée de Rion.
Messieurs, qu'espérez-vous de l'état de stagnation et d'inertie où l'on veut nous réduire ? Si des préjugés, des intérêts mal entendus, des inquiétudes mal fondées éloignent les deux premiers ordres d'une vérification commune, ne devons-nous pas espérer de faire cesser cet éloignement par des explications amiables ? Nous parviendrons, j'ose vous en répondre, à une vérification commune des pouvoirs. Nous ne devons laisser aux ennemis de la paix publique, aux ennemis de la nation, aucun espoir de nous diviser et de nous détourner des saintes fonctions qui nous sont assignées. Bravo. Envoyons donc 12 députés à messieurs du clergé et de la noblesse afin de leur témoigner le désir empressé des représentants des communes de se voir réunis à l'universalité des membres qui composent les États généraux.
Non, 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 messieurs.
Mirabeau.
Les députés des communes ne peuvent faire aucune députation tant que les pouvoirs ne sont pas vérifiés. Nous ne devons nous regarder que comme une agrégation d'individus qui peuvent conférer amicalement, mais qui n'ont aucun caractère pour agir. Il faut porter le respect de ce principe jusqu'à refuser d'ouvrir les lettres qui sont adressées aux communes. Laissons du temps aux ordres privilégiés pour réfléchir à l'inconséquence du système de séparation provisoire.
C'est vrai, nous ne sommes pour l'heure qu'une simple assemblée de citoyens réunis pour attendre d'autres citoyens.
Mounier,
je voudrais proposer...
Extrait donc de cette émission de la Marche de l'Histoire du 8 juin dernier, donc avec une reconstitution d'une discussion parlementaire pendant la Révolution française. Un art oratoire, vous l'avez dit, une capacité effectivement à exprimer ses idées. Quelle différence faites-vous en tant que jeune qui travaillait aujourd'hui, en jeune historien travaillant sur ces questions-là, entre ce qu'on exprime dans une assemblée parisienne, par exemple, et ce qu'on va en dire plus tard, donc lorsqu'on aura fait quelques journées de cheval ou quelques journées de diligence pour rejoindre le sud de la France, qui est votre sujet de thèse, en l'occurrence, pendant la Révolution française?
Alors, pour rebondir sur l'extrait qui vient de passer, ce qui est intéressant, bon, vous l'avez dit, on voit le souci de parler avec une voix claire et distincte, également le langage relativement soutenu. Ce qui est également important, et on l'entendait très bien dans l'extrait, c'est la présence du public à l'intérieur de l'Assemblée. Un public qui est, ça aussi c'est un phénomène nouveau pour l'époque, un public qui applaudit, qui réagit. Si on voit par exemple, si on s'intéresse aux représentations iconographiques de l'époque, on pense au fameux tableau du serment du jeu de paume, mm-hmm. On voit en haut, à gauche du tableau, cette présence du peuple de Paris, de la foule, qui est venue pour assister au débat et qui réagit au débat. Donc, dans cet art oratoire qu'acquièrent progressivement les députés, il y a aussi cette volonté de, pour le dire rapidement, de se mettre un peu le public
de son côté.
Il y a un côté meeting, hein, finalement.
Un côté meeting, tout à fait. On pourrait penser à ces grands meetings politiques encore contemporains. Alors, ça, c'est un premier élément pour développer sur votre question. Justement, on perd avec l'affiche, avec le journal, cette spontanéité des débats. Et il y a une volonté chez les hommes qui écrivent dans les journaux pour les députés ou qui font publier les affiches, de retrouver ces effets d'oralité.
Mais comment fait-on alors ?
Alors, si je développe le cas que je connais un petit peu, le cas de l'affichage, lorsqu'on consulte les manuels d'imprimerie de l'époque, des imprimeurs parisiens de l'époque, on a cette volonté, en jouant sur les typographies, en jouant sur la taille des titres, recréer ces effets d'oralité. Pour donner un exemple un peu précis, il y a un imprimeur parisien qui s'appelle Momoro, qui lui développe dédie tout un chapitre dans un manuel d'imprimerie à la manière dont on peut faire passer ses opinions politiques avec émotion par le biais de l'écrit, par le biais de la typographie.
Ah oui, donc c'est théorisé d'une certaine façon.
Ça commence à être théorisé. D'ailleurs, on le voit assez bien sur les documents. Alors, bon, là, c'est difficile.
On est à la radio, il n'y a pas d'image.
Sans les voir. Mais ce qui fait vraiment contraste, ce qui fait césure avec les documents de l'Ancien Régime, notamment donc avec les affiches de l'Ancien Régime, c'est, au niveau de la mise en page, une forme d'aération de cette mise en page. Par exemple, pour les titres, on ose de plus en plus faire des titres de grande taille. Alors, pour vous donner une idée sur un traitement de texte actuel, les titres, c'est une police environ 72,
ah oui,
alors qu'avant, on se limitait à 30. Donc, on
fait exploser la page.
Oui, on joue de plus en plus avec la page.
Parce que ce que vous dites aussi, Laurent Cuvelier, c'est que cette stratégie, cette politique d'information, elle ne peut pas fonctionner sans des intermédiaires. C'est que, bon, il y a l'affiche, il y a le placard, mais pour qu'il y ait diffusion, il faut qu'il y ait des relais, des porte-voix, justement. Que cette information soit vocalisée. Et donc, vous parlez notamment, alors c'est les chefs de corps de l'armée, par exemple, ou sont les instituteurs qui vont prendre le relais et qui vont justement peut-être être aidés par cette typographie, je sais pas, avec ces indications, pour justement donner le ton et lire de bonne manière ces décisions.
Laurent Cuvelier.
Tout à fait. Ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'on lit les quelques témoignages d'affiches, de lecture, d'affiches en situation, c'est la présence, l'omniprésence du titre. Pour schématiser, lors d'une discussion ou lorsque vous avez évoqué la lecture des proclamations aux armées, lorsque la proclamation est faite, ce qui ressort après, c'est le titre. On se souvient du document à partir du titre. On parle de la dernière loi, de la dernière proclamation à partir du titre. Et c'est justement ce titre qui reste en mémoire.
Mais tout de même, ce qui manque peut-être, enfin, je ne sais pas, vous allez nous répondre pour nous dire si j'ai raison, ce qui manque peut-être, c'est le débat. Parce que tout compte fait, ces affiches sont des proclamations de représentants en mission, donc de gens qui sont officiellement chargés de transmettre un message gouvernemental jusque dans les provinces et jusque dans les départements, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire comment cette décision a été prise, le processus de prise de décision qui, lui, peut être vu si on est parisien et si on assiste à des réunions de la Convention, par exemple.
Alors, en effet, là, on a cette perte qui est d'ailleurs préoccupante pour les députés de l'époque. Et là, ça me ramène à une thématique qu'on a déjà évoquée, c'est la complémentarité entre les différents médias. Ces affiches, en effet, cisèlent, tronquent les décisions. Et par volonté de transparence, qui est une volonté qui anime les députés d'alors, on utilise la presse pour essayer de retranscrire davantage et de développer sur ces débats.
De toute façon, on n'est pas non plus dans une société totalement républicaine, on n'est pas encore justement dans la discussion, et là, on va en venir avec
Paula Cossard,
où justement, tout va changer au moment où justement le citoyen va voter aussi.
Paula Cossard, vous avez écouté ce que disait Laurent Cuvelier au téléphone. Est-ce que vous sentez quelques, disons, prémices de ce que vous allez connaître à la fin du 19e siècle, puisque votre travail sur le meeting politique, de la délibération à la manifestation, publié aux presses universitaires de Rennes, commence en 1868, donc presque un siècle après la Révolution française. Est-ce que vous sentez des prémices, ou est-ce qu'au contraire, les débats, les changements de régime, la multiplication des régimes du 19e siècle qui précèdent votre travail change la donne par rapport à ce que vous avez pu noter de ces réunions publiques et de ces meetings politiques de la fin du 19e siècle, Paula Cossard?
J'ai l'impression, de façon générale, que, comment dire, on fait pas table rase du passé. Donc forcément, il y a des éléments qui sont déjà présents sous la Révolution française et qu'on retrouve plus tard. Je sais plus quel historien disait que le 19e siècle procède plutôt par accumulation. Il y a un peu de ça dans les réunions que j'étudie. Donc effectivement, il y a des choses qui sont déjà là, notamment sur la place du débat, l'importance du public, des choses qui vont ensuite changer dans les meetings tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Oui, et donc on a par exemple un extrait, une chanson de la période qui vous intéresse, à savoir la fin du 19e siècle, qui est écrite par le grand chroniqueur de la vie politique et publique de ces années-là, à savoir Aristide Bruand. Plus de patrons, on l'écoute et on va la commenter avec vous.
Je suis républicain socialiste, compagnon, radical ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi, je vais dans tous les métingues. Jamais je ne rate une réunion. Ah, je passe mon temps chez les manzingues où ce qu'on prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs. Mais je sais qui parle pour la bonne cause et qui tape sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule Doma les totors et qu'on parle de foutre tout par terre, j'applaudis d'achat et de tort. C'est d'une simplicité biblique. D'abord, faut plus de gouvernement. Puis faut plus non plus de république. Plus de sénat et plus de parlement. Plus de salaud qui vit à sa guise pendant que nous ont un mal de chien. Plus de loi, plus d'armée, plus d'église. Faut plus de tout ça. Faut plus de rien. Alors, c'est nous qui sera les maîtres. C'est nous qui fera ce que nous voudrons. Il y aura plus de chef, plus de contremaître, plus de directeur et plus de patron. Mince qu'on pourra tirer sa flemme. On fera tous les jours le lundi. Oui, mais s'il n'y a plus de la transpem, qui fera la paye le samedi?
Donc Marc Augeret qui lisait, qui ne chantait pas, il l'a chanté également, cette chanson donc sur l'air de la Carmagnole, écrite par Aristide de Bruant, donc le chroniqueur du Chat Noir, et qui dit « Je vais dans tous les métingues, jamais je rate une réunion », c'est aussi le fruit, pourrait-on dire, de déjà 20 ans, puisque c'est écrit je crois aux alentours de 1890, déjà 20 ans de participation, de création, plutôt une bonne dizaine d'années, puisque 1881 c'est la loi sur la réunion politique en même temps que la loi sur la presse et les grandes lois républicaines de ces années-là. C'est une dizaine d'années de pratiques qui permettent à Aristide Bruant de s'en moquer un peu d'une certaine façon, Paula Cossard.
Oui, il s'en moque un peu, mais c'est quand même très intéressant qu'ils disent « je vais dans tous les meetings, jamais je ne rate une réunion ». On est dans une période quand même où il y a une abondance des réunions électorales donc qui ont été autorisées par la loi sur la liberté de réunion dont vous avez parlé, de 1881, une abondance des réunions électorales, mais surtout une assistance qui est vraiment massive. Si on regarde l'électorat parisien, l'assistance va jusqu'à concerner la moitié de l'électorat parisien.
Ah bon ?
Sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui.
On se réunit où dans ces réunions publiques et politiques dans les années 1880-1890, Paula Cossard ?
On se réunit un peu où on peut. Ça a toujours été un problème que d'avoir une salle correcte pour faire une réunion. On se réunit, bon, là, c'est peut-être le mieux, dans des salles de bal. On se réunit aussi parfois dans des cabarets, des tavernes. Voilà, on se réunit pas encore dans les grands lieux de réunion qui vont émerger plutôt à partir de l'entre-deux-guerres, que sont les gymnases, les stades, etc. On est plutôt dans des salles d'un format relativement petit, mais qui peuvent quand même accueillir des centaines ou des milliers de personnes.
Et vous expliquez bien, Paula Cossard, que dès ce moment, le relais de la presse, c'est-à-dire comment ces réunions sont décrites ensuite par la presse écrite, a une extrême importance. Puis après, la gravure éventuellement de la réunion, puis il y aura la photographie. Évidemment, ça participe à toute cette stratégie de la communication de l'homme politique, en tous les cas.
Oui, oui, bien sûr, il y a une complémentarité hein, entre la réunion et la presse écrite. La presse écrite sert de relais hein, à ce qui est dit pendant les réunions. Pour moi, c'est aussi une source fondamentale hein, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ces réunions. Donc, il y a un phénomène de complémentarité. Il y a aussi un phénomène de concurrence quand même entre les deux, au sens où la réunion politique est considérée comme un moyen, enfin par les républicains qui la promeuvent, comme un moyen plus démocratique de constituer l'opinion publique, puisqu'elle est ouverte à tous. C'est une réunion qui est ouverte à tous, où se fait une délibération de tous les citoyens qui veulent assister, alors qu'évidemment la liberté de la presse est réservée aux quelques individus qui peuvent l'écrire et puis la lire.
Oui, ce qui est très intéressant et ce que vous développez dans votre travail, Paula Cossard, dans le meeting politique, c'est que vous expliquez qu'il y a une vision pédagogique, pourrait-on dire, de cette réunion publique, et qu'il y a là aussi concurrence de l'écrit et de l'oral. Donc la réunion publique est une sorte de vision, en tout cas quand elle est professée par les républicains, qui la développent après les grandes lois de 1881, Cette réunion publique est une façon de faire accoucher une sorte d'unité presque factice qui commence, dites-vous, par le drame, l'opposition, le débat, et qui progressivement parvient au consensus, Paula Caussard.
Oui, on a vraiment, ces derniers tiers du 19e siècle, hein, une croyance dans l'idée que le débat public, donc le débat dans les réunions publiques, va pouvoir produire une opinion publique pacifiée, une opinion publique rassemblée autour du bien commun. Finalement, la réunion politique, elle a effectivement ce rôle, enfin, elle est encouragée dans la perspective de promouvoir une opinion publique pacifiée, donc qui résulte d'une discussion raisonnée et d'une discussion contradictoire, c'est important, les réunions sont souvent contradictoires, donc de promouvoir une opinion publique pacifiée pour éviter l'action directe dans la rue notamment.
Et d'ailleurs, on restreint l'espace de ces réunions publiques, dites-vous, les Républicains ne sont pas pour qu'elles débordent sur la rue, qu'elles finissent dans la rue, qu'elles continuent en manifestation. Il faut au contraire que ça soit réglementé pour que on sépare bien cet espace public de la rue de cet espace semi-privé qui est l'espace de la réunion publique, Paula Caussard.
Oui, c'est quelque chose qu'a aussi montré Dominique Régnier avant moi dans son livre sur la formation de l'opinion, la circonscription de l'espace public. On ne considère pas que les gens puissent se réunir n'importe où. Il faut qu'ils se réunissent dans un lieu qui soit distinct de la voie publique. Excusez-moi, je m'entends en écho, en fait.
D'accord.
Voilà.
Allez-y. Vous avez fini? Oui.
Oui.
En fait, vous montrez aussi que très vite, à la fin du 19e, notamment avec, vous citez évidemment avec le boulangisme, l'affaire Dreyfus, évidemment cette réunion consensus, cette réunion faite pour instruire le citoyen et surtout l'aider à se former une opinion, elle va peu à peu changer. Il va y avoir une multiplication finalement de réunions exhibitions qui s'apparentent plus aux meetings traditionnels d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire au spectacle, au politique, au type réunion-manifestation qui vont, ces réunions-manifestations, déborder cette fois-ci dans la rue.
Oui, c'est vraiment ce que je montre dans mon livre, c'est-à-dire que l'on est passé d'une conception des réunions comme lieu de discussion, donc avec l'importance des réunions contradictoires, comme je le disais, et que la réunion a fini par devenir un mode d'action collective, si on peut dire, un moyen de montrer la force du groupe organisateur. Et donc j'ai montré notamment les difficultés que rencontre cette entreprise républicaine dont je parlais de promotion du débat public à la fin du 19e siècle, puisque se développe donc effectivement, notamment avec le boulangisme, l'affaire Dreyfus, des réunions dont l'objectif n'est pas de confronter des opinions, mais est plutôt de manifester sa force en assemblant autour d'une même cause des personnes qui sont déjà convaincues.
Eh oui.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va s'amplifier encore par la suite avec la naissance des partis politiques.
Et l'entre-deux-guerres, un extrait du discours de Maurice Thorez du 1er avril 1936.
La parole est à Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste.
Camarades, le Parti communiste obéit à une préoccupation exclusive. La défense des intérêts présents et futurs de la classe ouvrière et de tous les travailleurs. C'est la raison des succès de notre Parti communiste. Nous luttons pour que les ouvriers ne reçoivent plus des salaires de famine, pour que tous les chômeurs obtiennent du travail et du pain, pour que les petits fonctionnaires et les retraités, les anciens combattants et les victimes de la guerre, les vieillards et les incurables cessent d'être frappés par les décrets-lois qui ont réduit les traitements, pensions et allocations. Nous luttons pour que les paysans, les artisans et les boutiquiers échappent à la ruine et à la faillite et pour que l'État leur vienne en aide. Nous luttons pour que les travailleurs et leurs ménagères se procurent à meilleur prix les denrées de première nécessité, pour que les consommateurs, les petits producteurs et les boutiquiers unis fassent rendre gorge aux spéculateurs, aux accapareurs, aux gros intermédiaires, aux capitalistes responsables de la vie chère. Nous luttons pour faire payer les riches et les parasites. Nous réclamons un prélèvement extraordinaire et progressif sur le capital. Nous luttons pour la défense des libertés démocratiques menacées par le fascisme, pour le désarmement et la dissolution des ligues fascistes, pour la représentation proportionnelle à toutes les assemblées élues, pour le droit de vote aux femmes, aux soldats, aux jeunes gens à partir de 18 ans. Nous luttons pour que 20 ans après la terrible guerre, ne coulent pas à nouveau des torrents de sang, ne s'accumulent pas d'autres montagnes de cadavres. Nous luttons contre le retour aux 2 ans qui sont, comme les 3 ans en 1913, l'annonce de la guerre proche. Contre le front capitaliste, de l'exploitation, du fascisme et de la guerre, le Parti communiste organise le Front populaire du travail, de la liberté et de la paix. Vive le Parti communiste !
Maurice Thorez, le 1er avril 1936.
Est-ce qu'on a, coupé, par contre, c'est quand même le chant de l'international, qui est extrêmement important et qui fait partie complètement, pour la Cossard, des procédures de mise en spectacle, justement, dans le meeting et le meeting du Parti communiste en particulier.
Oui,
dans la mise en scène, enfin.
On disait au début de l'émission que les meetings ont évolué avec la télévision, avec l'apparition des chansons pour soutenir les candidats, etc. En fait, la théâtralisation ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de la télévision, elle est déjà très forte dans l'entre-deux-guerres, donc le moment où on commence à avoir ces grands meetings organisés par un parti politique. Donc moi, j'ai étudié surtout dans l'entre-deux-guerres le Parti communiste, la SFIO et puis les partis d'extrême droite, les PSF surtout, et qui vont donc produire des réunions d'un nouveau type où il s'agit surtout de montrer sa force.
Oui, par exemple, on se souvient, par exemple, puisque vous évoquez les meetings de la SFIO, que si on lit les carnets du Front populaire d'André Malraux, qui est intéressamment publié, eh bien, il raconte comment il assiste à un meeting de préparation avant la victoire du Front populaire et qu'on y écoute. Dans ce meeting du Front populaire, on y écoute le disque enregistré quelques années plus tôt par Renaud Dell, compagnon de Jaurès, racontant la mort de Jaurès. Donc, en attendant le meeting, d'une certaine façon, les participants qui arrivent au fur et à mesure dans la salle en question, eh bien, peuvent d'une certaine façon se baigner dans la longue histoire du socialisme, racontant la mort de Jaurès avant la Première Guerre mondiale, donc à l'ouverture de la Première Guerre mondiale, alors qu'ils sont en 1936 pour la Cossard.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un usage des enregistrements, mais aussi du théâtre, du cinéma. On chante dans les meetings. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui font penser un peu effectivement aux meetings d'aujourd'hui.
Non, juste pour préciser. Enfin, la SFIO au moment du Front populaire, il y a quand même Marceau Pivert qui est le responsable de la propagande et qui va justement s'occuper de filmer, d'organiser les manifestations, de costumer les militants. Je fais Alexandre Borel, si vous voulez rebondir.
Oui, d'ailleurs, j'imagine que l'extrait qu'on a écouté, c'est un disque qui était enregistré
oui.
À l'occasion. Et ce qui est intéressant, c'est que Pathé prend une initiative en 36, entre les deux tours, de diffuser dans les salles de cinéma des adresses. Alors, il commence avec Thorez et Larocque, qui s'adressent aux téléspectateurs. Et,
Après les actualités
après,
filmées.
Dans le cadre de ces actualités-là. Et en fait, ça produit de telles réactions véhémentes dans la salle que l'expérience est abandonnée complètement. Et en fait, les premières campagnes audiovisuelles, ça commence vraiment en 56, finalement, à la télévision.
D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on vous lit Paula Cossard, c'est de voir l'attitude des pouvoirs, ce sont des pouvoirs républicains dans toute cette période, donc des pouvoirs républicains de la Troisième République, vis-à-vis de ces questions des réunions publiques et de leur évolution. Vous expliquez bien comment, au moment de la création de ces droit de réunion en 1881 et de la loi qui les régit, eh bien, il y a aussi cette volonté d'un ministre de l'Intérieur de les réduire, de dire, eh bien, les préfets vont avoir le choix d'interdire ou d'autoriser ces réunions publiques. Dans le grand esprit libéral de 1881, on laisse faire, et puis ensuite, on va refermer, justement, après la période dont parlait tout à l'heure Séverine Yatard, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, les débats autour de l'affaire Dreyfus, on va refermer cette possibilité en donnant l'autorisation aux préfets, justement, d'interdire des manifestations qui pourraient se transformer des réunions qui pourraient se transformer en manifestation pour la Cossard.
Oui, tout à fait. Il y a un très grand changement hein, au début de la période donc qui m'intéresse, donc le moment de la mise en place de la Troisième République. Les républicains défendent vraiment avec ferveur la liberté de réunion, avec cette idée qu'il faut laisser tout dire du moment que c'est dit dans le lieu de réunion et pas dans la rue. Il faut laisser se confronter librement les idées, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de là va sortir cette fameuse opinion publique
raisonnable.
Raisonnable et pacifié, exactement. Et donc, il n'y aurait pas à avoir peur, finalement, de la liberté de réunion. Alors, ça va changer avec la transformation des usages de la réunion politique dont on parlait, puisque cette transformation éloigne la réunion politique de l'idéal pacificateur, donc, qui était fort dans les premières années de la Troisième République. Disons que la réunion organisée par un parti politique devient progressivement, dans l'entre-deux-guerres, du moins pour ses adversaires, une forme de provocation. On a l'idée que comme une démonstration unilatérale de la puissance, de la cohésion d'un parti, la réunion politique, finalement, va susciter des réactions violentes de la part des adversaires. Et du coup, finalement, les atteintes à la liberté de réunion dont vous parliez dans la seconde moitié des années 30 en sont une conséquence. C'est-à-dire que face aux violences qui sont survenues entre groupes politiques, notamment à l'issue des réunions, les pouvoirs publics, l'administration, commencent à interdire la tenue de certaines réunions, voire, c'est plus grave, à remettre en place un système d'autorisation préalable, auquel la législation de 1881 avait pourtant mis fin.
Alors vous parliez de révolution avec la naissance de ces réunions donc à la fin du 19e siècle, cette transformation en réunion en meeting politique. D'autres révolutions médiatiques ont eu lieu autour de cette parole des candidats et de la façon de la faire passer auprès de l'opinion publique, en particulier la naissance de la télévision, campagne de 1965, un extrait, la présentation de Jean Le Canuet.
Voici notre première rencontre. Vous allez donner vos voix. Il est naturel que vous connaissiez celui qui vous les demande, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme neuf. Je dois donc me présenter à vous. Reconnaissez qu'il est très difficile de parler de soi. Enfin, essayons. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Je suis né à Rouen, d'une famille de souche terrienne, normande et bretonne, d'une famille de commerçants et d'artisans qui a toujours su qu'il fallait lutter pour construire sa vie. À mon tour, j'ai une famille, elle comprend 3 enfants, 2 filles, l'une de 20 ans, l'autre de 17 et un jeune fils de 13 ans. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes partageant vos préoccupations et vos aspirations. Voici en quelques mots l'homme qui est devant vous. Mais il me reste à vous dire l'essentiel. Pourquoi suis-je candidat à la présidence de la République? Parce que, désormais, la responsabilité de notre avenir s'établit à l'Élysée et que l'avenir, c'est l'affaire de notre génération. Entre le président de la République sortant et le candidat de la gauche, soutenu par les communistes, ma candidature voudrait être pour vous, Françaises et Français, celle qui ouvre les voies de l'avenir.
Élection présidentielle de 1965, Jean Le Canuet, surnommé à l'époque le Kennedy français, qui donc fait sa première intervention télévisée face à François Mitterrand d'un côté, représentant des forces de gauche, et de l'autre côté, du général de Gaulle, héros de légende, et il dit « L'avenir, c'est l'affaire de notre génération, j'ai 45
ans. » Je ne suis pas un héros.
Je ne suis pas un héros de légende. Alexandre Borel, c'est un premier exercice pour tous ces candidats des élections de 1965. On sait très bien qu'il y avait les discussions radiophoniques de Pierre Mendès France auparavant. La télévision est arrivée progressivement dans ce milieu politique et il a fallu apprendre à ne plus parler comme on parlait dans les meetings de la Troisième République étudiés par Paula Cossard, à parler plus doucement, à parler avec une caméra et à s'adresser à travers cette caméra aux électeurs que l'on veut séduire.
Ce qui change beaucoup de choses dans l'oralité. Il faut rappeler qu'en 65, c'est la première élection du président de la République au suffrage universel direct. Et donc chacun des candidats se voit attribuer 2 heures d'antenne à la télévision, ce qui est énorme si on considère que la télévision, c'est la télévision générale, comme l'a dit Jérôme Bourdon, elle est complètement contrôlée par le général de Gaulle.
Mais le général de Gaulle, lui, l'a pratiqué cette télévision auparavant, quand il voulait énoncer certaines décisions.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il lui-même a dû s'adapter à la télévision. Ses premières allocutions télévisées, il a ses grosses lunettes, il lit son intervention et c'est une catastrophe d'un point de vue formel. Et on lui conseille assez fortement d'ôter ses lunettes. Et finalement, il va apprendre par cœur toutes ses allocutions. Et voilà, et ça donnera un résultat tout à fait.
En tous les cas, vous expliquez, Alexandre Morel, que lors de cette élection, le général donc va déclarer sa candidature à la télévision, mais après, il ne va pas trouver nécessaire d'utiliser son temps de parole. Mais quand il va se rendre compte de l'efficacité que justement ces interventions télévisées de la part de Mitterrand, de la part de Le Canuet surtout vont avoir, là, il va se la réapproprier d'une certaine manière.
Parce que Le Canuet était relativement peu connu avant le début de la campagne, il acquiert une relativement grande célébrité grâce à la télévision.
Mitterrand,
oui, il
est plus connu.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Le Canuet, il se présente et de Gaulle, il considère qu'il n'a pas à se présenter aux Français, ce qui est une relative cohérence. Effectivement, au vu des sondages, finalement, il enregistre quand même 2 émissions juste avant le premier tour parce que...
Oui, on ne sait jamais. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'aussi, ils doivent se faire à cet outil très particulier qu'est la télévision. C'est-à-dire que quand on est dans un meeting, on a, mettons, 500, 1000, 2000, 5000 personnes qui sont devant vous. C'est une foule. Et on s'adresse aux uns et aux autres. Là, on va toucher plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, peut-être plusieurs millions de personnes, mais on n'a personne face à soi. Donc ça doit aussi changer l'attitude de l'homme politique, la façon dont il parle, les périodes oratoires. Vous avez travaillé là-dessus, Alexandre Borrell.
Oui, parce qu'on s'adresse à la fois à des millions de personnes, dans le meilleur des cas, mais en fait, on s'adresse à 1, 2 ou 3 personnes. On s'adresse à des individus ou à des familles réunies devant le poste. Donc ça change évidemment la façon de communiquer. On est quasiment dans un face-à-face, d'une certaine façon.
On doit apprendre, par exemple, à regarder les gens au fond des yeux.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Le regard face caméra, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, parce que ça consiste à regarder un espèce de trou noir en face de soi. Et d'ailleurs, à partir des années 70, surtout les hommes politiques vont faire de ce qu'on appelle...
Des trainings.
Des trainings, voilà, pour apprendre à parler dans le poste. Et par ailleurs... beaucoup, alors c'est un peu plus tard, vont devoir apprendre aussi à utiliser un prompteur, parce que tous n'apprennent pas leur déclaration par cœur. Et on voit dans les dernières élections présidentielles des candidats qui sont plus ou moins acculturés à la pratique du prompteur, et donc ça donne des résultats plus ou moins naturels.
Plus ou moins hasardeux aussi, oui. Servignata.
Et c'est vrai que là, dans ces débuts, donc, on n'a pas de débat contradictoire entre les candidats, chacun va se présenter, et présente quoi ? C'est-à-dire que bon, Mitterrand, lui, se présente comme opposant à De Gaulle, et seul opposant d'une certaine manière. Et Le Canuet, on l'entend. Alors, après, ça se, peut-être on peut en discuter. Bon, il se présente, il n'est pas connu du peuple français et il commence à parler de sa vie privée aussi. Alors, est-ce que ça dit déjà quelque chose de notre société aujourd'hui, de la politique spectacle, en fait, d'une certaine manière. Il se présente, voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants. Est-ce que ça dit ça? Enfin, alors, la dérive, entre guillemets, peut-être actuelle.
Il y a plusieurs choses. De fait, il est assez peu connu, donc on peut considérer légitime qu'il explique quelle est sa profession, d'où il vient, s'il a des enfants. Et après, effectivement, l'élection du président du suffrage universel, ça implique une personnalisation qui va s'accroître. Et d'ailleurs, alors évidemment, là, on a pris un extrait dans lequel il se présente. Il a évidemment un programme qu'il défend. Mais le principal point du programme, finalement, de Le Canuet, on pourrait considérer que c'est sa personne, c'est la forme de modernité. On l'a appelé Monsieur Dent Blanche parce qu'il souriait naturellement. Et du coup, Michel Bongrand, que j'ai eu l'occasion d'interroger...
Donc publicitaire et directeur de campagne de plusieurs hommes politiques.
Voilà ça, et qui a commencé alors qu'il était un gaulliste historique. Donc il est d'abord allé voir le général de Gaulle en 65, qui lui a dit non merci. Et du coup, qui a proposé ses services à Jean Le Canuet... Il est dans l'idée, alors il est assez influencé par les pratiques américaines, il est dans l'idée que...
C'est Kennedy, il faut se souvenir que la personnalité de Kennedy qui pèse dans ces années-là.
Et l'idée, c'est de qu'une bonne communication, il faut qu'elle soit en rapport avec le personnage, donc quelqu'un qui est plutôt naturel. Et, voilà. Et de fait, Le Canuet est plutôt à l'aise à la télévision, alors que Mitterrand, il va lui falloir un certain nombre d'années pour... Pour apprendre à parler.
S'accoutumer d'une certaine façon à ça. Parce que, effectivement, il a commencé dans les meetings et les réunions politiques de l'immédiate après-guerre, en 1945-46. Et dans les réunions de la Nièvre, ça n'est pas exactement la même chose que dans les studios de la télévision des années 60 ou 70. Donc, il va falloir effectivement s'adapter à cela. Mais alors, cette explosion, pourrait-on dire, des campagnes télévisées change quoi dans la façon dont les hommes politiques parlent aux Français? Est-ce que vous avez pu noter une évolution sensible, Alexandre Borel, vous qui avez étudié tous les spots de campagne depuis 1965, une évolution, disons, notable de la façon dont les hommes politiques se présentent aux Français?
Alors, ça dépend. Si on prend le cas, par exemple, de Ludouvrière et d'Arlette Laguiller, les spots de 1974 ressemblent beaucoup à ceux de sa dernière campagne ou à ceux de celle qu'il a remplacée en 2012. C'est un discours politique prononcé. Et Nathalie Arthaud, merci.
La sobriété.
Sobriété, et on se concentre sur le contenu du message et sur le contenu programmatique. Par ailleurs, c'est effectivement, dans les spots, ça a beaucoup évolué. Sous un effet principal, c'est qu'à partir de 88, à partir des années 80, il y a des chaînes privées et donc il faut faire des spots qui soient un peu plus attrayants pour les téléspectateurs. Donc on fait des spots plus courts, et ils sont de plus en plus courts, et avec des images pour agrémenter et attirer un peu l'attention.
Mais qu'est-ce qu'on met dans ces images?
Alors, c'est assez variable.
Les Français?
On met des images de visage, des Français, des Françaises, et on promeut d'une certaine façon. Les images permettent aussi de dire ce qu'on ne verbalise pas et de présenter une certaine idée de la France, si on peut paraphraser le général de Gaulle, à travers notamment les portraits qu'on diffuse dans ces...
Vous allez imaginer un spot télévisé à la radio. Dominique Voynet, c'est en 1995.
Solidarité.
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 Démocratie.
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 Fraternité.
Fraternité.
Parité.
Parité.
Écologie.
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 Voter utile, c'est voter pour un vrai projet de société, tolérante, conviviale, où l'on travaillera moins pour travailler tous. Une société dont les lois ne seront plus dictées par les bétonneurs, les pollueurs, les marchands d'armes et les cours de la bourse. Une société qui aura pour valeur la paix, la justice et la dignité humaine partout dans le monde. Changer la vie, je m'y engage. Dimanche, j'en suis sûre, vous ferez avec moi le choix de l'écologie et de la solidarité.
Voilà, on dit souvent que le cinéma est plus beau à la radio, mais peut-être le spot télévisé l'est moins. Vous voyez les images parce que vous les connaissez par cœur, Alexandre Borel, mais nous ne les voyons pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ces musiques avant que la femme politique et Dominique Voynet n'interviennent?
Alors, là, en l'occurrence, il y a un alliage de mots, d'images qui sont pas des prises de vue réelles, d'ailleurs, ce qui est assez peu fréquent, d'images qui sont recolorisées. C'est une version un peu gaie de l'écologie, alors qu'il y a beaucoup de spots écologistes qui ont une tendance à être anxiogènes, à présenter les dangers qui pèsent sur la France, sur la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vient d'entendre là. C'est la même chose qui est diffusée à la radio et à la télé le plus souvent, parce que les équipes de campagne font ça en fin de campagne, et donc elles se concentrent sur les spots télé. Et la version radio, qu'on entend sur les chaînes, notamment du service public, c'est juste la bande-son. Sauf que c'est pas forcément conçu pour être d'abord une bande-son, donc voilà. Mais alors, et là, il y a une forme de modernité, vous voyez, dans la musique, qui est la musique qui ne dénote pas avec la musique du milieu des années 90.
Oui, donc il y a adaptation, pourrait-on dire, des équipes de campagne à ce nouveau média, adaptation au format aussi, parce que effectivement, vous disiez, 1965, c'est 2 heures pendant lesquelles les candidats peuvent intervenir à la télévision. Ensuite, on va faire des spots de plus en plus courts, jusqu'à faire des spots d'une minute ou une minute trente. Évidemment, ça n'est pas exactement le même langage, le même discours, la même façon dont on s'adresse aux Françaises et aux Français.
Bien sûr. Le spot le plus court en 81, c'est 5 minutes ou 6 minutes. Le spot le plus long en 2012, c'est 3 minutes 30. Ouais. En général, ils font plutôt 1 minute 30. Donc, de fait, ça a eu un effet. En fait, à partir de 88, il y a eu beaucoup d'images dans les spots. Et puis, plus ça va, plus on se réduit sur la parole du candidat. Parce qu'évidemment, en 1 minute 30, on ne peut pas dire des tonnes de choses. Donc, il y a beaucoup moins d'intervenants extérieurs ou de citoyens anonymes qui interrogeaient le candidat dans, par exemple, le début des années 2000. On se concentre sur la parole du candidat. Avec un certain nombre
de messages, de slogans, de mots-clés.
Et on retombe parfois sur des extraits de meetings qui permettent de rendre le spot beaucoup plus dynamique.
Laurent Cuvelier, vous vouliez intervenir, alors que vous êtes spécialiste de la Révolution française, mais vous vous intéressez évidemment dans le monde dans lequel vous vivez, lequel vous vivez.
Pour rebondir sur ce qu'on disait sur les proximités entre les différents médias et notamment sur l'importance de l'image et de la confidence politique. C'était extrêmement intéressant dans les extraits de Le Canuet, notamment qu'on a écouté, cette manière de présenter, d'associer sa profession de foi politique avec des éléments d'autobiographie, avec des éléments personnels. On retrouve ça, cette préscience, cette utilisation pendant la Révolution française.
Oui, parce que de compte fait, ce sont tous des candidats neufs. Il disait, je suis un candidat neuf, mais à la Révolution française, ce sont tous des candidats neufs.
Le même leitmotiv à chaque élection.
Ils ne sont pas des souverains, ils ne sont pas des nobles, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut se faire connaître.
Tout à fait. Et se faire connaître, ça passe, alors on les a déjà évoqués, notamment par la presse et par les affiches. L'un des hommes politiques d'alors qui est extrêmement fort pour le faire, c'est Brissot. Brissot, il a la vision, ou plutôt le sentiment, le pressentiment que le fait de faire figurer son image dans les rues, ça portera et ça lui permettra de se faire connaître.
De devenir populaire d'une certaine façon.
D'accroître sa notoriété politique. Et donc comme ça, ce sont des documents qui sont extrêmement rares, mais on a...
Des images de Brissot.
Des images, des gravures qui sont de qualité assez médiocre pour être honnête, mais le représentant au travail, dans l'Assemblée, et lui permettant d'une certaine manière d'accroître sa réputation politique à l'époque.
Un dernier mot, Alexandre Borrell.
Oui, si on revient à l'extrait de Le Canuet, évidemment on se présente, mais aussi on essaie de se différencier. C'est tout l'enjeu finalement de la communication politique dans le cadre d'une élection présidentielle. Il faut aussi montrer en quoi on est différent des autres, et essayer de créer une forme d'intimité avec l'auditeur ou le téléspectateur.
Merci Alexandre Borrell. On peut lire vos travaux dans différents articles que vous avez publiés, en particulier dans des revues. Et vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Parlement. Merci à vous, donc Laurent Cuvelier. On peut lire aussi des articles de vous sur les grands sites que sont Cairn, Percée ou revue.org. Et on trouve des travaux préliminaires à votre thèse, puisque vous n'avez pas encore terminé. Et puis pour Paula Cossard, on peut lire Lutte urbaine. Ben, Paula Cossard et Julien Talpin, c'est son dernier livre, Participation et démocratie, d'interpellation à l'Almagar, aux éditions du Croquant, et son livre dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est Le meeting politique de la délibération à la manifestation aux presses universitaires de Rennes. On termine avec la chanson de campagne de Lionel Jospin en 2002.
Français et en français, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté.
Cette émission, comme toutes les autres, a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Stéphane Poitvin était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Et avec, évidemment, Séverine Niatar qui était avec nous, qui a préparé cette émission.
C'est une exigence qu'il sache.
Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous l'avez beaucoup fréquenté pendant l'été pour réécouter les émissions de l'année précédente. www.franceculture.fr. Vous pouvez télécharger les émissions pendant un an, les écouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Laissez vos commentaires sur nos pages, mais aussi sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous parlerons de la façon dont, une fois qu'on s'est fait connaître, on fait carrière en politique.